Où se trouve Gergovie? Eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas avec certitude où se trouve Gergovie. On a tout essayé. Les fouilles, les observations diverses, la main à l'oreille pour intercepter un dernier bruit de la bataille, même un petit bruit de rien qui se serait garé dans le temps. Eh bien, rien. Rien de rien. Bien sûr, on sait que Gergovie, c'est à Clermont-Ferrand. Là n'est pas le problème. Le problème est de savoir si c'est au sud de la ville ou au nord. Si c'est au sud, le nouveau problème est de savoir si l'oppidum se situe sur le plateau de Mer Dogne, qui domine la ville, site officiel visité par 80 000 personnes chaque année. Ou bien sur l'éperon rocheux du Cray, à 12 km. Et si c'est au nord, pourquoi pas, Gergovie est sur les côtes de Clermont. Mais, chut, cette incertitude a déjà déclenché de violentes polémiques entre les descendants des Arvernes. Ceux des Éduins et ceux des légionnaires romains ayant fait souche dans cette magnifique région. Une simple et modeste suggestion, de toute façon, dans la patrie de Michelin, Gergovie, ce sera toujours un tout petit pneu plus loin.
Alésia, en 52 avant Jésus-Christ, c'est la revanche de Gergovie. César a préparé sa défense. Il compte sur le temps, mais une surprise l'attend. Vercingétorix a installé son quartier général à Alésia. Nous sommes en juillet moins 52. César, qui est en position de faiblesse, se retire vers le sud. Et les légions romaines marchent lentement, chargées de tout le nécessaire pour survivre puisque la tactique de la terre brûlée se poursuit. Vercingétorix pourrait ainsi vaincre les légions à l'usure. Mais, peut-être trop confiant en ses milliers de cavaliers, il va les lancer sur les troupes romaines qui se mettent en carré et résistent si bien qu'on peut alors parler de défaite gauloise. Vercingétorix a perdu une bataille, il n'a pas perdu la guerre, mais c'est presque fait. En effet, il se réfugie dans la place forte d'Alésia. César, alors, dispose tranquillement ses troupes autour de ce site afin d'empêcher tout approvisionnement. Il leur fait creuser 3 fossés successifs, ce qui crée une ceinture de 15 km, infranchissable par les assiégés, car César a fait installer des pièges un peu partout. Par exemple, des pieux durcis au feu et qui sont plantés pointe en l'air dans des trous d'un mètre de profondeur. Une autre ceinture de plus de 20 km est destinée à empêcher les renforts de passer. Le piège fonctionne. Les vivres s'épuisent dans Alésia. Le conseil des chefs se réunit et prend l'incroyable décision de faire sortir de la ville les femmes, les enfants et les vieillards. Ils s'en iront vers les lignes ennemies et se proposeront comme butin à vendre. Vercingétorix préfère cette solution à celle utilisée par ses ancêtres qui, rappelle-t-il, au temps de l'invasion des Germains, préférèrent sacrifier les faibles, les bouches inutiles dans la ville assiégée plutôt que de se rendre. Le résultat ne sera guère différent. En effet, la foule tremblante des faibles, des vulnérables, des femmes, des jeunes filles, des enfants, des vieillards, franchit les portes d'Alésia et se dirige vers les lignes romaines. César les voit qui viennent l'implorer de leur laisser la vie, mais César demeure de marbre. Il ordonne de les repousser violemment, ce que les soldats s'empressent de faire. Des cadavres jonchent les fossés romains. La foule des faibles, désemparés, s'en retourne vers les portes d'Alésia qui demeurent fermées à leurs cris, à leurs supplications. Ils errent plusieurs jours entre les remparts et les lignes ennemies, cibles des Romains. Pas un ne survivra. Les renforts arrivent. Des dizaines de milliers de soldats gaulois viennent tenter de sauver Vercingétorix et ses compagnons. Coordonnant leurs attaques, les Gaulois lancent leur assaut à l'extérieur du cercle des lignes romaines et à l'intérieur en sortant d'Alésia. Les soldats de César sont pris en sandwich, mais les Gaulois s'empalent sur les pièges à pieux, tombent dans les fossés remplis de pointes dissimulées. Enfin, César lance, derrière les lignes assiégeantes, des groupes de cavaliers germains qu'il avait tenus cachés. C'est la débandade dans les rangs gaulois. C'en est fait de l'oppidum d'Alésia. Vercingétorix réunit un conseil et demande qu'on lui donne la mort. Finalement, il est décidé qu'il se livrera à César. Ce qu'il fait. On ne sait comment la reddition se déroula. Plusieurs versions existent. La plus vraisemblable et singulière à la fois est la suivante. Vercingétorix lance son petit cheval à bride abattue vers César qui attend Martial et Hautain. Le chef gaulois jette ses armes aux pieds du Romain, descend de sa monture et va s'asseoir, les bras croisés, près du vainqueur. Une autre, rapportée bien plus tard par un historien romain, présente ainsi la reddition. Comptant sur l'amitié que César lui avait témoignée en d'autres temps, Vercingétorix alla de lui-même vers son vainqueur, alors que celui-ci siégeait dans son tribunal. L'apparition du guerrier gaulois tout armé, qui était de haute stature, impressionna d'autant plus les assistants qu'il vint se jeter aux genoux de César en lui rappelant le temps où ils n'étaient pas ennemis. Mais celui-ci le fit mettre au fer immédiatement, l'envoya en prison à Rome. Vercingétorix attendit 6 années que César organisa son triomphe en exhibant le Gaulois. Puis le vainqueur fit étrangler le vaincu.